Il est 9h41, merci d'accueillir l'Instant M dans vos oreilles.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Quand on regarde la télévision, on baisse la tête. Quand on entre dans une salle de cinéma, on la relève, disait Jean-Luc Godard. Qu'il est loin, le temps où télé et cinéma, c'était chacun son média. Les géants de la vidéo sur Internet rebattent les cartes. Un seul tout petit écran de tablette ou de smartphone pour tout regarder, films et séries. Avant, le cinéma français devait remplir les salles, chez nous ou ailleurs. Aujourd'hui, le cinéma français doit-il trouver des internautes ? Bonjour Isabelle Giordano.
Bonjour Sonia.
Vous êtes la directrice générale d'Unifrance, la promotion du cinéma français à l'étranger. C'est vous, ça passe aussi, figurez-vous, par un French Film Festival en ligne. D'abord, actu et actu des séries. Salut Romain.
Bonjour Sonia.
Romain Nigita, évidemment, Amazon. Vous avez dit Amazon ?
L'Instant M, le rendez-vous média de France Inter.
Bon alors ça c'est du jamais vu, hein. Du jamais vu dans les médias, du jamais vu dans le monde de l'entreprise privée. En général, Jean-Pierre Elkabbach ne va pas seulement interviewer des politiques sur iTélé, mais rebâtir la chaîne en rejoignant le premier cercle des conseillers de son actionnaire, Vincent Bolloré. Le tout en restant conseiller d'Arnaud Lagardère, propriétaire d'Europe 1, radio dans laquelle Elkabbach est entré en 1981. L'homme murmurera donc à l'oreille de deux patrons concurrents dans un même secteur. Pour le reste de l'actu, figurez-vous que tout tombe pile dans notre sujet du jour, à croire que Madame Giordano l'a fait exprès. Alors, pour commencer, TF1 entre au capital de Studio 71, une énorme plateforme vidéo en ligne qui appartient à ProSieben, le groupe de télé allemand. Dans le même temps, ProSieben s'allie avec Mediaset, le géant de la télé privée. En Italie, Studio 71 va donc arriver en France, en Italie, en plus de l'Allemagne, de l'Angleterre, des États-Unis. Qui a dit que la vidéo sur Internet pouvait se permettre d'avoir des frontières? Qui a dit aussi que TF1 avait systématiquement raté depuis sa création tous les virages à l'international? Romain, vous vouliez ajouter votre grain de sel.
Eh bien, TF1 a signé avec le studio Universal et avec le groupe allemand RTL pour produire des séries pour l'international. Et la première, ça sera Gone, une série policière avec Chris Noff, qu'on connaissait dans le rôle de Mr. Big dans Sex and the City.
Vous l'avez vu?
Ça n'a pas encore été tourné, c'est vraiment tout frais, tout frais.
Tout frais, tout frais. Et paf, on apprend en même temps que Médiamétrie ne va plus mesurer simplement l'audience de la télévision en direct, mais prendre en compte tout ce que vous regardez de la télé en différé, en replay, ou même parfois en direct sur vos ordi, vos tablettes, vos smartphones et autres tout petits écrans, puisque c'est le sujet du jour. Une émission comme celle de Yann Barthès, vous venez d'en entendre le générique quotidien sur TMC, figurez-vous que c'est 50% d'audience en plus. Enfin, gros pataquès. Lundi, le maire de Cannes annonçait aux Échos que la Croisette lancerait le premier festival international de la série télé. Camouflé, le gouvernement vient de faire savoir que non. Parmi les 5 villes candidates, il retenait plutôt les projets de Lille et de Paris. Lille, pour sa proximité peut-être avec les marchés britanniques et nordiques, pour sa capacité à faire rayonner un projet au niveau européen en dehors de Paris. Mais Paris n'est pas loin. Paris sûrement pour le bilan de Sérimania auprès des professionnels et du public. Et là, je veux vos réactions à tous les deux, Isabelle Giordano, Romain Nigita, Isabelle.
En fait, la France, on sait, c'est le pays des fromages, mais c'est aussi le pays des festivals. Hein, parce que c'est un des pays au monde où il y a le plus de festivals, trop de festivals.
Ça tue le festival,
ça tue peut-être le cinéma et les séries. En tout cas, ce qui est bizarre, c'est qu'un festival de séries, il y en a un qui existe, il est très très bon, ça s'appelle Sérimania, il existe depuis quelques années. Et c'est vrai que c'est un petit peu dommage qu'on ne donne pas aux professionnels et à ceux qui savent faire la possibilité de poursuivre ce qu'ils ont commencé.
Alors, d'autant
qu'il y a
aussi...
la petite guerre des villes, on verra bien, on verra
beaucoup
bien ce que ça va
de
donner.
Festivals de création télé tout court. Hein. Il y a le FIPA de Biarritz, il y a le Festival de la Fiction à La Rochelle, il y a celui de Luchon qui va bientôt commencer, qui ouvre des nouvelles catégories dédiées aux séries numériques. Donc là, évidemment, c'est la multiplication, non pas des pains, mais des fromages, selon Isabelle Giordano.
Il y a également Série à Fontainebleau, qui est également un très bon festival orienté scénario. Il y a le MIP TV qui est réservé aux professionnels. Il y a le Festival de Monte Carlo, juste à côté de la France depuis les années 60. Bref, il y a quand même plein de choses qui existent déjà.
On peut peut-être faire remarquer remarqué que quand même, c'est à la directrice de Sérimania, Laurence Herzberg, que le gouvernement avait confié la remise d'un rapport. Alors après, ça avait aussi suscité une levée de bouclier. C'est-à-dire qu'au terme de ce rapport, elle conseillait de favoriser son propre festival, Romain Nigita.
Oui,
ça avait fait grincer des dents
dans le milieu des festivals, c'est le moins
compliqué. Mais tout simplement parce que moi j'y vais à ce festival et c'est bien, voilà. Donc c'est tout simple, hein. Et à un moment donné, faut pas chercher midi à 14h.
Voilà. Bon, et donc vous pensez que la Croisette peut cohabiter avec Sérimania, parce que l'idée c'est quand même de faire venir et des journalistes et des acheteurs. Donc il y a un moment, la part du gâteau, elle est pas extensible à loisir, Isabelle Giordano.
Ça va être compliqué, puis je trouve pour ma part, mais alors là c'est vraiment un avis extrêmement personnel, je trouve que c'est bien que Cannes reste la ville du cinéma. Je trouve que c'est pour moi Cannes c'est
C'est dit. Romain Nigita, après Canal Play et Netflix, Canal Play appartenant à Canal Plus, et avant le lancement d'une plateforme vidéo à la demande par France Télévisions, le géant américain Amazon débarque en France. Amazon Prime Video, ça s'appelle.
Et oui, Amazon, le titan du commerce en ligne sur lequel vous achetez déjà vos DVD, eh bien, propose désormais de regarder des séries et des films directement sur le site, sur votre ordinateur ou sur votre tablette. C'est donc exactement comme Netflix qui, au départ, louait des DVD et les envoyait par la poste.
On les a oubliés.
Tout à fait. Alors, le site Amazon est donc devenu un véritable vidéoclub dématérialisé. C'est le même système pour tous ces systèmes. On paye un abonnement et ensuite c'est open bar avec un visionnage illimité. Et dans le cas d'Amazon, c'est un abonnement qui est compris dans l'option payante premium qui permettait déjà d'être livré beaucoup plus vite.
Mm-hmm. Ça s'appelle de la fidélisation client en termes marketing. Alors, comme sur Netflix, on y trouve aussi des séries produites par Amazon. Un conseil, Romain.
Alors, sans hésiter, The Mine in the High Castle, c'est l'adaptation de Philip K. Dick de son roman Le Maître du Haut Château. Alors, imaginez que le Troisième Reich et le Japon aient gagné la Seconde Guerre mondiale. Mm-hmm. Et imaginez qu'un groupe de résistants découvre des bobines de films qui contiennent des images d'un univers où les alliés auraient gagné la guerre.
Each one of these films show a reality like ours, but not ours. You learn an awful lot watching these films.
Ces bobines montrent une réalité proche de la nôtre, mais différente de la nôtre. Certaines personnes sont les mêmes dans les deux mondes, mais la plupart sont différents. Alors c'est une série inédite qui est splendide, un petit bijou. C'est produit par Ridley Scott et c'est écrit par Frank Spotnitz qui avait aussi travaillé sur X-Files.
Voilà, et les autres succès d'Amazon en termes de séries ?
Alors son autre série la plus célèbre s'appelle Transparent. C'est une série dans laquelle un père de famille sexagénaire entame sa transition afin de devenir la femme qu'il a toujours été. Et en fait, c'est une formidable série, une comédie dramatique qu'on peut déjà voir en France sur OCS. Puisque tout comme House of Cards qu'on avait vu en France sur Canal+, avant l'arrivée chez nous de Netflix, on a déjà vu des séries d'Amazon sans le savoir. Mozart The Jungle sur OCS, c'est Amazon. La série policière Bosch sur France 3, c'est Amazon.
Encore du Amazon.
Exactement. Ouais. The Collection qui passe sur France 3, c'est une coproduction entre France Télévisions et Amazon. Puisqu'en fait, ce sont des studios de production qui vendent une diffusion en exclusivité à ces plateformes, que ce soit Netflix ou Amazon, pour une durée donnée, mais elles en conservent les droits. C'est d'ailleurs pourquoi, après Netflix, on va pouvoir voir Orange is the New Black sur la TNT, sur numéro 23. Ça commence le 3 février
à prime time. Ah, mais ce sera gratos, ça.
Exactement.
Numéro 23, enfin une bonne nouvelle. Et ça attire du beau linge.
Ah, carrément, puisque Amazon a su convaincre Woody Allen de tourner une série pour cette plateforme. Mm-hmm. Ça s'appelle Crisis in Six Scenes, écrit et réalisé par Woody Allen. 6 épisodes, mais qui ne sont pas très convaincants, malheureusement.
Ah bon ?
Ouais, non, c'est pas génial. C'est un long film découpé en morceaux, grosso modo.
Okay.
Beaucoup plus intéressant, la série Goliath, créée par David Kelley, le créateur d'Ally McBeal, avec Billy Bob Thornton dans le rôle principal, qui vient de gagner le Golden Globe du meilleur acteur pour cette série.
Ça dit bien, hein, ça dit bien que quand même Netflix et Amazon sont très très présents aujourd'hui dans la course aux grandes récompenses.
Et également Sneaky Pete, qui est produite par Bryan Cranston, l'acteur de Breaking Bad. Là, il est producteur. Et ça sera l'histoire d'un truand qui veut se racheter.
Voilà, un dernier mot parce que c'est quand même très rigolo. Amazon met à contribution tous les internautes et les fait voter sur des pilotes. Alors, le pilote, c'est un premier épisode, une tentative. Et c'est à nous de décider lequel deviendra une vraie série.
Exactement, mais c'est quand même un coup marketing qui a ses limites. Chris Carter, le créateur d'X-Files, en a fait les frais. En 2014, son pilote The After casse la baraque auprès du public.
Ouais.
Amazon commande la première saison. Et puis, Amazon annule tout parce qu'elle se rend compte que ça va coûter beaucoup trop cher puisque c'est une série post-apocalyptique.
C'est ça, mais en fait, le public a bien meilleur goût que les diffuseurs. C'est connu, mais ça s'appelle quand même un gros couac. Moi, je préciserai quand même que Amazon Prime se lance en France, mais que le sous-titrage est fait à la hache pour l'instant et que donc, si on n'est pas bilingue, eh ben, on n'y comprend pas grand-chose à ces séries sous-titrées. Merci Romain.
L'instant M, avec Sonia De Villers.
Alors justement, Laurence Herzberg, qui est donc la patronne de Série Mania, Isabelle Giordano, nous disait à ce micro, on ne dit plus série télé. Il n'y a plus aucune raison de dire série télé, parce que finalement, une série, c'est une série. Vous diriez la même chose du cinéma ?
Oui, parce que maintenant, le cinéma, les séries, on peut les voir partout. On peut les voir dans une salle, on peut les voir à la télévision, on peut les voir sur un iPad, on peut les voir sur toutes sortes d'écrans. C'est le fameux Attawad, c'est les comportements anytime, anyway, any day, etc. Mm-hmm. Maintenant, les gens veulent voir, veulent consommer de la culture. Moi, je crois que c'est une bonne nouvelle. Ils veulent consommer de la culture, que ce soit de la musique, des films, des disques ou effectivement des séries. Ils veulent les voir le dimanche après-midi et à la maison et pas forcément aller dans une salle. Et il y a aussi tous ces gens, il faut quand même tenir compte de ça. C'est ça le succès d'Internet. C'est un accélérateur incroyable pour la culture et pour le cinéma. Pour moi, je trouve que c'est vraiment une révolution. Il y a des gens qui disent même qu'on est en train de vivre la révolution qu'a connue le cinéma quand on est passé du muet au parlant. C'est vraiment la possibilité pour des gens qui habitent au fin fond du Texas, où il n'y a pas une salle de cinéma à moins de 100 km, c'est la possibilité de voir le visage de Vincent Lannon, par exemple.
Ben pourquoi pas? On aurait tort de s'en priver.
Sur leur écran.
C'est ça. Ces plateformes ont transformé votre mission, Isabelle Giordano. Je rappelle que vous êtes la directrice générale d'Unifrance du temps de Daniel Toscan du Plantier. Il fallait créer l'événement. Il fallait emmener de belles actrices françaises à Tokyo, attirer les journalistes et aider les films français dans la course aux récompenses américaines. Aujourd'hui, est-ce que la place du cinéma français sur ces plateformes dont on vient de parler, Amazon, Netflix, est-ce que c'est ça le levier, justement?
Oui, et c'est la guerre. C'est une guerre économique. C'est bien sûr du soft power, c'est de la diplomatie d'influence, c'est tout ça. Mais c'est passionnant parce que c'est vrai qu'il faut faire partie, il faut aller dans cette révolution. C'est-à-dire que le cinéma, et de toute façon, on dit toujours que le cinéma est en crise depuis les Frères Lumière.
Oui.
Mais c'est ça qui est bien dans le cinéma. C'est que c'est vraiment une industrie qui doit tout le temps se renouveler.
Non, parce qu'hier, on a quand même feuilleté le catalogue de Netflix en ce moment.
Il y a très peu de films français.
Il y a très peu, dans la colonne les plus gros succès sur le site, un seul film français. Des vents contraires, dans la colonne derniers ajouts, pas un seul film français. Dans ajouts récents, tout film confondu, on a seulement Le Vilain de Dupontel.
Ouais.
Et de Dupontel est dans les films salués par la critique, La Haine.
Et il y a quand même Mustang qui a très bien marché et Divine diffusée il n'y a pas très longtemps. Mais c'est vrai que c'est la guerre et c'est le boulot d'Unifrance justement d'essayer de créer soit des French Corners sur ces plateformes, soit d'essayer en tout cas de faire en sorte, et c'est le travail que font tous les vendeurs de films, justement c'est eux qui font ce travail-là, pour essayer de faire exister le cinéma français sur ces plateformes. C'est compliqué, mais en même temps, c'est absolument indispensable. Parce qu'aujourd'hui, les salles de cinéma sont en train de fermer, notamment les salles où sont diffusés les films européens, les films indépendants, c'est-à-dire plutôt les cinémas de quartier, les cinémas de centre-ville. Aujourd'hui, si vous allez à Rome, si vous allez à New York, vous pouvez faire des kilomètres sans voir une seule salle de cinéma. Et quand vous entrez dans un cinéma, il est vieux, il est moche. En France, on est vraiment le pays de l'exception culturelle.
On a
plein de salles de cinéma qui sont modernes, qui sont magnifiques. Mais c'est vraiment, on est des enfants gâtés. Donc partout dans le monde, il y a moins de salles. Et l'accès aux salles dans les multiplexes, il est de plus en plus compliqué. Donc c'est la raison pour laquelle il ne faut pas nier la salle. C'est jamais l'un contre l'autre.
Non, c'est pas l'un contre l'autre.
Et moi, il y a une réflexion que j'ai vraiment beaucoup aimée. J'en discutais hier avec le président du GC, Guy Verrecchia, qui disait qu'en fait, l'offre à domicile, elle va concurrencer une autre offre à domicile. Il n'y aura jamais la guerre entre l'offre à domicile et la salle de cinéma. La salle de cinéma, on le voit bien avec les chiffres. Les gens vont énormément au cinéma. Ça reste une expérience absolument unique. C'est fait de good vibes, de bonnes ondes, de rencontres, de partage. C'est les émotions collectives, comme le disait une sociologue. Donc c'est vrai qu'il n'y aura jamais, à mon avis, une concurrence entre les films en salle et les films sur un petit écran.
Je vous fais écouter Claude Lelouch. Il était président des Césars l'année dernière. Il était au micro d'Augustin Trapenard.
Le cinéma, c'est les portes de l'aventure, c'est les portes des premières fois, c'est les grands écrans, c'est les grandes salles, c'est des spectacles qu'on peut pas voir tout seul à la maison. Non, mais voilà. Donc non, je vais me battre jusqu'à mon dernier souffle pour que le cinéma résiste à tous les supports qu'on lui propose actuellement, toutes ces alternances, ces tout petits écrans, toute cette saloperie qui fait qu'on perd le goût du cinéma, la force du cinéma. Non, non.
Toutes ces saloperies. Il y a donc quand même une guerre de génération, même si c'est pas la salle contre la vidéo.
Je sais pas si c'est
vidéo.
Une guerre de génération. Et puis je rentrerai certainement pas là-dedans. C'est 1+1.
Voilà. Alors,
je
vais reprendre justement
pour que ces films, d'un film de Lelouch, il faut continuer d'amener des actrices sur des tapis rouges.
Pour que ces films aillent sur ces plateformes,
mais il faut pas
Isabelle Giordano, il faut modifier en France ce qu'on appelle la chronologie des médias. C'est un tout petit peu technique,
c'est
mais
pas
enfin,
pour demain la veille.
Ça signifie que après la sortie en salle, on ne peut pas voir un film en DVD avant 4 mois. On peut peut pas voir 10 mois avant sa sortie sur Canal+, par exemple. Il faut attendre 22 mois pour qu'une télé gratuite qui l'est coproduite puisse le diffuser, 30 mois pour que toutes les télés et 36 mois pour que Netflix ou Amazon puissent le diffuser. Vous êtes pour bouleverser tout ça ?
Bien sûr, parce qu'on est un des derniers pays au monde où la chronologie des médias est aussi longue et aussi pesante. Mais en même temps, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Il faut respecter la chaîne de valeur et il faut bien sûr respecter des équilibres. Et puis on le sait, ça ne se fait pas en 5 minutes. Il faut mettre tout le monde autour de la table et mettre tout le monde d'accord. Les gens du cinéma, de l'industrie cinématographique, se sont déjà mis plusieurs fois autour de la table et tout le monde n'est pas d'accord. Donc il faut continuer de négocier, de trouver des accords pour satisfaire tout le monde. En attendant, je trouve bien que à l'extérieur de la France, là où la chronologie des médias n'est pas la même, on puisse diffuser ce qu'on fait nous depuis 7 ans, ce genre de promotion cinématographique. Et c'est tant mieux d'avoir des dizaines et des dizaines de films qui sont accessibles à tous, parce que c'est ça l'enjeu du 21e siècle. C'est vraiment d'essayer
de prendre le pas. C'est Isabelle Giordano qui m'a appris à faire de la radio dans la vie, donc il n'est pas dit que j'arriverai à lui couper la parole.
parce que
justement,
c'est un sujet important.
On y vient justement au
French Film Festival. La diffusion des savoirs, l'accès à la culture pour tous, c'est l'enjeu de ce siècle.
Justement. Alors, justement, le French Film Festival, c'est un festival en ligne. On écoute un extrait, le nouveau Irréprochable. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir parmi tous les films que vous aimez?
Moi, j'aime beaucoup Irréprochable.
Et
le nouveau, mais voilà, allez-y comme vous voulez.
Irréprochable.
Constance, je suis votre avocate, mais je ne sais pas comment je vais vous défendre. On est dans un cas typique de harcèlement sur le lieu du travail, donc voilà, ça se plaide, le harcèlement.
Sauf que ce sont les avocats de votre ancien patron qui vont plaider le harcèlement. Vous avez appelé votre ancien patron 1985 fois et vous avez dormi à plusieurs reprises sur son palier, il y a des témoins.
Irréprochable, film de Sébastien Marnier avec Marina Foïs et Benjamin Biolay. Entre autres, ça fait partie de votre sélection que vous allez dévoiler demain, 10 films en ligne.
On sera diffusé par Facebook Live à partir de 20h. Suivez voilà. My French Film Festival.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de totalement contre-nature, de totalement contradictoire, puisque dans l'idée d'un festival tel qu'on se le représente, il y a toujours la notion d'exclusivité, de rareté. Et vous, vous les balancez en ligne dans le monde entier.
Ah mais justement, si, il y a le plus beau des tapis rouges, avec quand même des pépites, on a des exclusivités, on va vous montrer à partir de demain un petit court-métrage fait par Philippe Labro en 64 où on voit Françoise d'Orléac qui est absolument mais plus belle que belle. Elle se déguise en Greta Garbo. C'est une pépite qu'on a retrouvée dans une cave. Hein. C'est vraiment exceptionnel.
Dans les archives
on diffuse
France.
Aussi, parce que je pense que tout le monde ne l'a pas vu, Cléo de 5 à 7. Et je crois qu'il y a plein de gens en Asie, aux États-Unis qui adorent voir ce genre de film. Agnès Varda en plus va créer bientôt l'événement cette année avec son film avec JR. Moi, ce que je trouve intéressant dans ce festival, le plus beau des tapis rouges, c'est ça, c'est de pouvoir proposer 10 films. Il y a des longs métrages, il y a des courts-métrages dans 10 langues différentes et on peut les voir, qu'on soit en Pologne, en Russie, à Tokyo, à Buenos Aires. Tous ces gens peuvent voir ces films français parce que là, aujourd'hui, c'est vrai que François Truffaut reste une référence, il est très connu, mais là, on vient d'entendre la voix de Marina Foïs.
Oui.
Marina Foïs, je peux vous garantir qu'elle n'est pas très connue dans les rues de Buenos Aires et dans les rues de Moscou. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de permettre à chacun de découvrir, de mettre, en plus on les met en lumière, la jeune génération du cinéma français.
Alors c'est extrêmement important, il y a autre chose qu'une histoire de génération, il y a aussi une vraie question de pluralité, de diversité de la création française. Les chiffres chaque année de l'exportation du cinéma français à l'étranger montrent qu'il y a des rouleaux compresseurs. Le numéro un des rouleaux compresseurs s'appelle Luc Besson et derrière, les chiffres sont mais vraiment minuscules à côté du titan Besson.
Oui, enfin, c'est pas qu'un rouleau compresseur, c'est un producteur, un réalisateur qui fait justement vivre le cinéma français partout dans le monde.
44 millions d'entrées pour Taken l'année dernière, 44 millions d'entrées à l'étranger.
Cette année, effectivement, sans film, ni produit, ni réalisé par Luc Besson, les chiffres du cinéma français à l'export seront moins bons. Mais on reste quand même leader européen, on est quand même le deuxième exportateur mondial de films, certes loin derrière Hollywood. Ça reste une industrie riche, diversifiée, qui arrive quand même à s'imposer. C'est un cinéma qui est apprécié, qui est envié dans le monde entier. Mais c'est vrai que ça, c'est intéressant. L'international, ça sert à ça. C'est aller à l'étranger pour pouvoir s'interroger sur son propre pays, sur son industrie, et de savoir effectivement pourquoi il y a une personne, il y a Luc Besson qui exporte, mais il n'y a pas que lui. Bon, il y a des années où il y a The Artist, Intouchable, etc.
Et ça a été même les meilleures années du cinéma français. Merci Isabelle Giordano. MyFrenchFilmFestival.com, ça ouvre sur Internet demain. 10 longs métrages en compétition.
Et on va essayer de battre le record de l'an dernier où il y avait 6,5 millions de visionnages. Et puis surtout, dites bien qu'on est relayé par iTunes, Amazon, par toutes ces plateformes dont on a parlé, Google
Play. C'est la fin de l'émission.